C'est pas du vent. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Comment expliquer que nos élites politiques ne fassent pas de l'écologie un sujet central de leur campagne alors que nous savons que la transition énergétique créera de l'emploi, que les changements climatiques vont accroître les flux migratoires et nous obliger à modifier nos modes de vie. Qu'il s'agisse des élections américaines ou des débats en ce moment en France, le constat est affligeant. Personne n'en parle ou alors, pour en nier l'importance, le mouvement citoyen Les Jours Heureux qui vient de publier son manifeste sans auteur, 120 actions pour résister et créer aux éditions Actes Sud se mobilise. Fanny Charras, vous avez deux stratégies dans ce mouvement, une horizontale, une verticale. Expliquez-nous ça.
Oui, alors ça c'est la réorganisation du mouvement qui a eu lieu ces dernières semaines, parce que du coup à la base le mouvement a eu l'idée donc de réécrire Les Jours Heureux donc en référence au Conseil National de la Résistance, ce qui a donné lieu à ce livre et Nous vivrons des jours heureux. Et on a pour cela réuni 100 auteurs issus de la société civile, qui sont experts, enfin plutôt qui appartiennent à un domaine, à un terrain, en fait, en fonction de leur travail de terrain. Ils ont pu écrire des propositions de loi ensemble, et ça réunit un peu tous les partis politiques. Enfin, ça va de Corinne Lepage à François Ruffin. Alors, ils n'ont pas co-signé ensemble une même proposition de loi, ces deux-là en particulier, mais plutôt travaillé avec une petite équipe de 2 à 5 personnes avec qui ils étaient d'accord sur l'écriture d'une proposition de loi. Et en fait, à la fin, ça a donné donc ce livre-là. Et l'idée, donc verticalement, c'était de soumettre le pacte, ce pacte, et Nous vivrons des jours heureux, qu'en fait, ce livre aux éditions Actes Sud, comme vous venez de le mentionner, aux politiques. Mais c'est un peu compliqué, étant donné qu'il y a tellement de propositions de loi qui sont sur tous les domaines. Est-ce que vous dites oui ou non à ce livre? Bah, tout le monde va dire oui ou non, mais sans le lire. Alors, on a réorganisé le propos en 9 mesures phares ou 9 mesures essentielles.
Mesure numéro 4, par exemple, la France sortira totalement des énergies fossiles et du nucléaire en 2050. Alors ça, c'est pas du tout dans les programmes des candidats à la primaire de la droite, par exemple.
Quand on regarde, justement, je regardais le programme de François Fillon, il dit qu'il va garder les centrales nucléaires actuelles pour 40 ou 60 années, quoi.
Prolonger leur durée de vie de 40 à 60 ans.
Leur durée de vie de 40 à 60 ans, ce qui, à mon avis, il appelle ça, ce programme, il l'appelle environnement et transition énergétique. Alors, je vois pas ce qu'il y a de transition énergétique là-dedans.
Alors, mesure numéro 7, Geneviève Azam, réduire l'emprise de la finance. C'est vous qui, notamment, co-signez ce texte. C'est pas un peu utopiste, là aussi?
Évidemment, on peut penser que c'est utopiste quand on voit justement l'accélération même de l'emprise de la finance, comme si ce qui s'est passé depuis 2007 finalement n'avait pas été une leçon suffisante sur la nécessité d'arraisonner la finance. Bon, les mesures qui ont été prises ont été très largement insuffisantes et au contraire pour certaines même ont encore accéléré cette emprise de la finance. Cette emprise de la finance, elle concerne aussi l'écologie d'ailleurs, puisqu'on voit émerger toute une finance verte et on voit émerger l'idée que finalement les marchés, j'ai été très sensible et ému d'ailleurs de réentendre Bernard Maris, comment les marchés se substituent à l'action de l'État. Et on a entendu par exemple à la COP22 à Marrakech le fait que finalement l'élection de Trump n'était pas très grave parce que désormais, concernant le réchauffement climatique, les marchés prenaient le relais des États et que les marchés s'étaient emparés de la question du réchauffement climatique. Alors c'est vrai qu'il y a un peu partout la mise en place de marchés du carbone, d'une véritable finance verte, comme si c'était donc la solution.
C'est vrai que quand 360 multinationales américaines interpellent par exemple Donald Trump en lui disant n'allez pas vers une économie carbonée parce que nous on est déjà dans la décarbonation, c'est vrai que c'est pas inutile.
Non, ce n'est pas inutile. Bien entendu qu'on a besoin des entreprises pour effectuer la transition. Mais et justement, bon, je ne sais plus quel est exactement le numéro de la mesure, passer à 100% d'énergie renouvelable en 2050, c'est-à-dire abandonner les fossiles et abandonner le nucléaire, il ne suffit pas de remplacer la consommation énergétique d'aujourd'hui par une consommation à 100% renouvelable. Il y a un programme de sobriété énergétique qui est absolument nécessaire pour pouvoir atteindre les 100% de renouvelables, parce que même les renouvelables, on ne les produit pas avec rien. Il faut de la matière, il faut de l'énergie pour produire des renouvelables, ce qui signifie que nous devons aller vers des programmes aussi de réduction de la consommation d'énergie, de sobriété énergétique. Et ça, bien souvent, ces firmes transnationales ne le portent pas. Ça ne peut être porté, ce type de choses ne peut être porté que dans le cadre véritablement d'une régulation qui n'est pas la régulation des marchés, mais la régulation des États.
Oui, ça veut dire qu'il faut avoir une vision à long terme. Or, comme le dénonce Stéphane Kerkhoff, le délégué général de Agir pour l'environnement, la vision de nos hommes politiques est plutôt à court terme.
On le constate au quotidien et localement toujours avec ces grands projets inutiles qui sont contestés parce qu'ils sont symptômes d'un manque d'imagination de responsables politiques qui vont aller chercher dans les vieilles recettes des 30 glorieuses des solutions et globalement met en lumière l'absence d'imagination de ces responsables politiques qui, par réflexe, vont aller systématiquement considérer que la nature est une source dans laquelle on peut puiser et qui va globalement accroître le rendement et accroître les retours sur investissement, alors qu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'environnement devrait être considéré en tant que tel et non pas comme un vivier dans lequel on puise. Et on constate qu'effectivement, ces responsables politiques font fausse route quand ils vont chercher dans les 30 glorieuses des solutions qui sont juste des voies sans issue. Nous, on a constaté ça ça commence à dater, mais à Johannesburg, avec Jacques Chirac, qui a fait un discours historique. C'était « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Tout le monde garde en mémoire ces phrases très fortes. Et parallèlement à ça, des actes qui étaient à 180 degrés par rapport au discours. Et on a subi cette accumulation de grands discours écolos avec le Grenelle de l'environnement, avec la conférence environnementale, où on a l'impression que nous avons maintenant affaire à une espèce d'écologie hors sol, où les responsables politiques font assaut de belles formules parce qu'ils ne sont pas capables d'agir sur le réel, tout bonnement, parce qu'ils n'ont pas pris en compte la contrainte environnementale et, une fois encore, utilisent l'environnement comme une boîte dans laquelle on puise. Sauf que ça ne marche plus, ces recettes-là, et on constate que les crises sociales et économiques sont induites, a priori, par les crises écologiques.
Marion Buchette, vous avez organisé avec le mouvement des Jours Heureux une marche des Pyrénées, c'est-à-dire dans le sud de la France, à Paris. C'était du 7 octobre au 5 novembre. Est-ce que les citoyens ont adhéré à votre démarche et est-ce que ça permet, par exemple, de sensibiliser les gens aux propos que vient de tenir Stéphane Kerkhoff ?
Je pense que les citoyens aiment débattre, ont envie de débattre. Donc quand on venait, quand on passait le soir des films, quand on commençait à débattre, les gens étaient intéressés et voulaient participer. Et en fait, je pense que un livre, c'était très important de le faire, mais c'est une base pour le débat. Et ce qu'on propose à travers la marche, à travers la plateforme de participation sur laquelle les gens peuvent aller, 2017 Agir Ensemble, pour participer au débat, c'est essentiel pour les impliquer, donc pour les convaincre que l'écologie est essentielle. Mais eux, ils ont besoin de débattre, parce que c'est pas seulement une crise écolo, c'est aussi une crise démocratique.
Alors Fanny Charras, est-ce que vous avez l'impression que le mouvement prend de l'ampleur ?
Oui, plus ou moins. Enfin, ça dépend à quel niveau.
On sent un peu de frustration.
Oui. Mais du coup, tout à l'heure, je disais vertical, horizontal, c'est un petit peu en contradiction. Parce que d'un côté, se soumettre soumettre un texte à des politiques, on dit plutôt consultation, plaidoyer par symétrie, et on consulte également les citoyens comme on consulte les politiques. En fait, ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Et c'est un peu en contradiction. Et au niveau de la reliance.
Enfin, c'est complémentaire.
C'est complémentaire, voilà. C'est complémentaire. Oui. On essaye de faire en sorte que ça se complète vraiment.
Et vous avez donc de plus en plus de personnes qui s'intéressent, qui vont sur la plateforme.
Oui, on a de plus en plus de personnes qui s'intéressent, qui vont sur la plateforme. Ce soir, j'organise un apéro pour faire une sorte d'appel à bénévoles, pour avoir encore plus de personnes qui se joignent au mouvement. On va ouvrir aussi un nouveau cercle, parce qu'on fonctionne par cercle, en fait. Il y avait un cercle rédaction, il y a un cercle animation, et en fait, un nouveau cercle plutôt artistique, du coup, avec un investissement citoyen, artistique, pour donner une autre couleur, en quelque sorte, au débat, et intéresser aussi des personnes qui ne sont pas nécessairement intéressées par le politique, mais qui s'investissent autrement.
Voilà, donc un sursaut démocratique est essentiel. Aura-t-il lieu ? On en parle juste après ça.
Est-ce que c'est toi par hasard qui fabrique les tempêtes, les typhons, les tornades et les cyclones ? Est-ce que c'est toi qui les lance sur la mer quand ça te fait plaisir ?
Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr. questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous parlons du mouvement citoyen Les Jours Heureux aujourd'hui qui en appelle à un sursaut démocratique et écologique dans ce contexte français de campagne présidentielle où l'écologie est la thématique la plus absente, peut-être avec la culture aussi, on va dire, des débats. Alors Valérie Cabanès, vous dites attention à ce manque d'anticipation qui peut-être créer des fractures au sein de la société et peut-être à terme générer de la violence et du vote vers des extrêmes.
Oui, alors il y a deux facteurs. Il y a d'une part, effectivement, parce que là, on entend des programmes politiques qui tournent le dos véritablement aux populations, finalement, les plus pauvres. Et ça m'inquiète énormément parce que si, effectivement, les fonctionnaires, les ouvriers sont menacés par ces programmes, ils risquent de se tourner vers l'extrême droite. Et là, je vois effectivement un véritable risque en mai. Et puis de façon plus globale, si je replace la France sur notre belle planète, le fait d'occulter totalement la réalité climatique et environnementale qui va progressivement toucher la plupart des populations du monde, sachant qu'il y en a aujourd'hui qui sont quand même déjà bien affectées. Il y a 40 millions de personnes qui sont en train de mourir de faim en Afrique australe. On a les peuples du Pacifique qui sont en train de couler. D'ailleurs, ils ont appelé la Cour pénale internationale il y a 2 jours à reconnaître le crime d'écocide. Je vous l'annonce, c'est un scoop. Le fait de ne pas regarder en face que cette crise climatique va engendrer des mouvements migratoires massifs. On attend 60 millions de personnes d'Afrique subsaharienne d'ici 2020, dans 4 ans, qui vont devoir quitter leur territoire. On en attend au moins 250 millions d'ici 2050, dans le scénario le plus optimiste. Donc, ne pas regarder en face cette crise-là et ne pas comprendre que ces gens-là, ils vont venir frapper à nos portes, ne pas l'inscrire dans le débat, ne pas l'inscrire dans la pensée politique et le projet politique, c'est forcément...
C'est un manque de réalisme. Alors, même si les chiffres sont toujours à prendre avec précaution, mais Frédéric Lemarec, vous partagez ce constat?
Tout à fait. Et en fait, on en revient aussi à un point où on discutait tout à l'heure, c'est que on a du mal à parler d'écologie dans le débat public parce que tous les problèmes sont externalisés. Nos téléphones portables, nos ordinateurs, les composants des voitures sont produits à partir de minerais qu'on extrait en Afrique ou en Asie. Le poisson qu'on mange en Europe vient d'Afrique.
Le nucléaire, l'uranium qui alimente nos centrales nucléaires vient d'Afrique aussi.
Donc en France, on voit pas vraiment les problèmes de la mondialisation et de la surexploitation de tous ces éléments naturels. En Afrique, on le voit tout à fait. En Somalie, il y a des problèmes de piraterie en ce moment depuis le milieu des années 2000, qui sont dus à la surexploitation des ressources marines et au largage de déchets nucléaires ou d'autres déchets chimiques dans leurs eaux.
Comment vous faites le lien ?
Ils ont pris les armes pour se rebeller, en fait, pour... Alors, il y avait un aspect pécunier. Forcément, ils prenaient des otages pour demander de l'argent. Mais ils ont pris les armes et pris des personnes occidentales en otage pour se venger, quelque part, de la surexploitation de leurs ressources et du pillage de leurs côtes. En Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de gens qui décident de migrer parce qu'ils n'ont plus de poissons pour s'alimenter. Ils viennent en Europe. Donc, nous, on se plaint de tous ces migrants qui arrivent sur nos terres alors qu'on en est les responsables. Ça, on a du mal à le voir.
Pourtant, durant la COP21, je me souviens très bien que François Hollande, dans son discours d'ouverture, avait fait le lien entre insécurité en Afrique, notamment, et justement désertification et raréfaction des ressources naturelles. Donc ce discours, il est connu.
Ce discours, il est connu, mais effectivement...
Mais il n'est peut-être pas très populaire aujourd'hui, ça ne fait pas voter les gens.
Il n'est pas très populaire, d'une part, parce qu'on nous oppose toujours l'aspect environnemental à l'aspect social. Donc on nous fait croire que l'un va à l'opposé de l'autre. Et aussi parce qu'on fait des grands discours au niveau étatique et on ne les met pas en action sur le terrain. Ça, c'est pas nouveau.
Geneviève Azam, est-ce que vous craignez un risque d'une société fracturée ou d'un regain de violence ?
Je crois que nous y sommes, dans une société fracturée, une société violente. Mais je voudrais dire qu'en même temps qu'il y a ça, on voit fleurir partout des initiatives, des résistances, des alternatives qui sont pérennes, qui ne sont pas anecdotiques, c'est-à-dire que la transition écologique et sociale que nous appelons de nos voeux, elle est en marche aujourd'hui. Alors évidemment, on a les deux mouvements, on a une société vivante, je crois, on a une société qui s'empare des questions politiques, et on a une classe politique peut-être, ou un monde politique, qui est extrêmement en retard. C'était pitoyable, les débats qu'il y a eu ces jours-ci autour des programmes des candidats. C'est à pleurer, c'est un vide total de pensée. C'est toutes ces connaissances, toutes ces expériences qui ont été faites, tous ces débats qui sont présents dans la société, au fond de la société vraiment, eh bien c'est comme si ça n'existait.
Mais ça prouve qu'il y a quand même une vraie déconnexion entre les attentes des citoyens, les discussions que les citoyens ont entre eux et les messages que véhiculent ce que l'on appelle les élites politiques.
Absolument, mais je pense qu'on a toute une part de la société qui est aujourd'hui en avance dans la compréhension de ce qui est en train de nous arriver, qui est en avance dans la mise en œuvre, de tentatives de mise en œuvre d'alternatives. Et je crois que l'espoir... En tout cas pour moi, il est là d'une société qui n'a pas, qui n'est pas enfermée complètement dans un fatalisme, une société qui avance véritablement. Je sais que nous le répétons toujours, ça peut paraître impuissant. Nous voyons partout des milliers et des milliers d'initiatives, de publications, de réflexions, et ce n'est pas seulement en France, c'est partout dans le monde. Mais on est sur quelque chose d'assez frontal, avec d'un côté certains, et notamment bon, les puissances dominantes, qu'elles soient financières, économiques ou politiques, qui prônent finalement une espèce de fuite en avant, avec, nous n'avons pas dit, bon, qui tient un petit peu, parce que c'est une des mesures que j'avais préconisées, avec la croyance que finalement les progrès technologiques vont nous sortir du mauvais pas dans lequel... dans lesquelles la technoscience justement nous a amenés. Donc il y a une espèce d'attente hein, par rapport à des promesses techniques qui nous permettraient de surmonter toutes les difficultés dans lesquelles nous sommes. Donc il y a une espèce de fuite en avant dans une toute-puissance qui est représentée très bien aujourd'hui par le personnel politique qu'on a vu ces jours-ci. Et de notre côté, toute une société qui est engagée dans une véritable transition, qui a compris les limites de la Terre, qui a compris aussi le poids des inégalités, que les transitions ne pourra pas se faire sans justice sociale. Donc il y a des tas d'expérimentations partout assez extraordinaires.
Il faut sans doute casser aussi ce mythe que l'on entend régulièrement dans les discours politiques, qui est qu'il faut relancer la croissance. C'est l'obsession des candidats dans cette élection présidentielle française. Je vous propose d'écouter ce qu'en pense l'économiste Jean-Marie Arribé, membre du collectif des économistes atterrés.
Il y a un paradoxe, c'est que maintenant, les gouvernants et les responsables politiques de toutes sortes disposent d'études tout à fait officielles qui attestent ce que les hétérodoxes disaient depuis déjà des années, à savoir qu'il y a un épuisement des gains de productivité qui commence à se manifester à l'échelle mondiale. Donc toutes les statistiques dont on dispose confirment maintenant que si l'on a une vision de long terme, pas simplement combien il y a eu cette année par rapport à l'an dernier, mais qu'on a une vision sur disons les 4 ou 5 dernières décennies, si on va plus loin depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a une tendance à la diminution de la progression de la productivité du travail sur le long terme. Dans des proportions tout à fait impressionnantes, c'est-à-dire que pendant les fameuses Trente Glorieuses, on tournait à 4 ou 5% de plus de productivité du travail par an, puis on est passé à 3, puis on est passé à 2, et maintenant, si on espère 1, c'est le bout du monde, entre guillemets. Et le paradoxe, c'est que ça n'alerte pas les responsables comme il le faudrait. Et plus grave encore, vous savez que lorsque l'ONU a adopté le concept de développement soutenable ou durable, il était question de parier sur le progrès technique qui serait susceptible de procurer à l'humanité les ressources de remplacement une fois qu'on aurait trop épuisé les ressources naturelles. Eh bien, on dispose aujourd'hui d'études tout à fait officielles, hein, c'est pas les économistes atterrés qui l'ont inventé, on sait calculer approximativement, bien sûr, mais on sait calculer l'influence du progrès technique comme contribution à la progression de l'activité. Eh bien, on constate sur le demi-siècle la même tendance à la diminution de cette progression. Donc l'influence du progrès technique est en train de diminuer et donc on ne peut plus faire le pari que celui-ci sera susceptible de nous fournir les solutions techniques pour résoudre les questions environnementales du XXIe siècle. Et donc cette double diminution des gains de productivité, à la fois du travail et puis ce que l'on doit essentiellement au progrès technique, se raréfie. Ils ne sont pas passés au-dessous de zéro, c'est vrai encore, mais ils avoisinent. On en est entre 1,5 ou 1% de plus par an, ce qui, c'est quasiment l'épaisseur du trait. C'est-à-dire, en termes de statistiques, c'est la marge d'erreur, quoi.
Fanny Charras, ça vous faisait réagir ces propos?
Oui, c'est parce que justement, je lisais hier dans le programme de Fillon sur environnement et transition énergétique, il disait on va s'appuyer sur le progrès technique pour faire face aux dangers climatiques. Je me dis que c'est totalement déconnecté de la réalité, justement.
Alors, vous essayez de sensibiliser les citoyens à travers une plateforme, un livre, des réunions.
Voilà, surtout la plateforme en ce moment, en fait, c'est là qu'il y a beaucoup d'activités. C'est-à-dire que le livre est en PDF, en ligne, il est accessible sur le site internet et en même temps sur une plateforme qui est la plateforme en fait APF de l'Association des paralysés de France 2017 Agir Ensemble. Et c'est là que chacun peut donner son avis sur les propositions de loi qui sont en ligne.
Il voilà. y a tout un agenda que vous avez l'intention de mettre en place maintenant, oui. Organiser des événements voilà. publics, faire événements. Pression sur les candidats.
C'est ça. À la fois consultation, donc organisation de débats, etc. Sur la plateforme Agir Ensemble, chacun discute, on organise des débats avec les personnes aussi qui ont écrit le livre. Et d'autre part, soumettre les mesures phares qui sont en constante évolution. C'est pour ça que je parle de contradictions, mais c'est parce qu'elles sont en évolution. Parce que le débat amène à l'évolution qui pourtant, à la fin, enfin, l'idée c'est de soumettre ce programme et même de l'imposer. Avec l'idée utopiste, mais il faut être utopique, qui est de faire les 100 jours de la République suite aux élections présidentielles.
Donc dans l'idéal, il faudrait que les candidats à la présidence de la République adhèrent à votre pacte et s'engagent à respecter voilà. certaines mesures,
mesures
durant les 100 premiers jours.
Au moins les 9 mesures phares avec les actions immédiates pour changer les choses.
Et ben on vous souhaite bon courage, allez, un peu d'optimisme venu d'Afrique. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à un mouvement social qui prend de l'ampleur, lui aussi, sur le continent. Il s'agit du mouvement des jeunes volontaires pour l'environnement que vous avez fondé il y a 15 ans. Sénat Louka, bonjour.
Bonjour Anne-Cécile Bra, bonjour Actuel Développement.
15 ans déjà, plus de 50 000 membres et sympathisants dans 28 pays. Félicitations.
Merci.
Alors expliquez-nous ce que vous faites sur le terrain dans tous ces pays avec tous ces jeunes mobilisés.
Non, je pense que le débat qui a eu lieu un peu plus tôt est un débat assez pertinent. C'est justement les mêmes raisons qui nous ont motivés à nous engager. Comme disait Martin Luther King, soit on se met ensemble comme des frères pour résoudre le problème ou bien on mourra tous comme des idiots. Donc les jeunes de ma génération ont compris la nécessité de pouvoir s'engager. Et donc, entre 1999 et 2000, nulle part, cet homme de problèmes environnementaux dans un petit village du Togo, on a décidé de s'engager. On a créé une association Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Objectif, s'assurer que toute prise de décision, toute évaluation de politique, toute discussion sur l'avenir de la planète, eh bien, puisse intégrer les jeunes, les populations marginalisées et les savoirs. Donc, c'est ainsi que nous avons commencé à faire des travaux sur le terrain. Notamment l'éducation à l'environnement, nous avons des émissions radio, nous avons des cours dans les établissements. Et aussi, on s'est intéressé aussi à la dimension politique de l'environnement, donc la question sur les tests, nous participons au débat à l'Assemblée nationale. Et on a dernièrement commencé les actions de terrain, donc la promotion des foyers améliorés pour réduire la pollution. Vous savez, au Togo, par exemple, 3000 personnes meurent chaque année de la pollution. Et donc, on veut régler ce problème. L'adaptation au changement climatique, l'accompagnement des groupements de femmes. Donc, une série d'activités autour de l'eau, de la biodiversité, mais aussi de la justice climatique. Donc, on meublait un peu nos activités qui ont fait que la jeunesse africaine s'est sentie interpellée et a décidé donc de pouvoir rejoindre le mouvement. Aujourd'hui, on est dans 28 pays. J'y vais au Maroc, je vais lancer demain matin.
Donc, ça va être 29 pays désormais.
Tu as compris.
Donc, bah écoutez, on vous souhaite un joyeux anniversaire. Tenez-nous au courant de vos activités. C'est vrai qu'on peut suivre toutes les activités des membres des jeunes volontaires sur l'environnement sur Facebook, par exemple. Vous tapez JVE, vous allez voir, il y en a partout. C'est incroyable ce dynamisme. Bravo encore, Sénat Louka. On vous félicite et on vous remercie pour cette initiative. Valérie Cabanès, on voit bien, on tisse des ponts entre l'actualité française, la mobilisation des jeunes en Afrique. Le problème, de toute façon, de l'écologie n'a pas de frontières.
Non, d'ailleurs, notre mouvement est constamment sollicité par des associations africaines, sud-américaines. On a plein de liens avec le Togo, avec le Bénin, avec le Burkina. Il y a toute la société civile en particulier qui a amené en ce moment au Burkina à faire tomber Blaise Compaoré et à jeter Monsanto dehors. Est en train aujourd'hui de se mobiliser justement pour la reconnaissance des droits de l'écosystème Terre. Et on demandait à la présidence une audience, donc j'attends un petit peu des nouvelles. Mais c'est vraiment là-bas, à mon avis, que les choses vont bouger. C'est vraiment les pays les premiers affectés en fait par le changement climatique et environnemental qui vont faire bouger les lignes à l'échelle internationale. Et je les remercie.
Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Le mouvement des jours heureux est à suivre sur Internet, hashtag jours heureux, ou sur le site les-jours-heureux.fr. Et le manifeste est publié, on vous l'a dit, chez Actes Sud. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve samedi prochain, même planète, même heure.